Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Merci de monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission qui va vous offrir, je l'espère, des conseils de lecture, des recommandations de lecture, des suggestions aussi de livres à offrir pour Noël ou pour le jour de l'an. En tout cas, si vous en avez besoin, nous allons vous donner quelques pistes pour vous accompagner dans vos derniers achats de Noël en librairie. Au cours de notre émission, nous serons aussi par téléphone avec André Derrieux qui signe aux éditions Ellipse un essai intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin, 12 mois avec Bacchus ». Là aussi, une idée cadeau originale à offrir à celles et ceux qui aiment le vin, le vignoble, la culture et l'histoire. Et dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous vous proposerons en nouvelle diffusion deux contes de Noël lus par son auteur, Pauline Barroyer, qui avait lu ses textes pour nous il y a 2 ans, en décembre 2018. J'ai donc sélectionné 2 contes lus par Pauline Barroyer. Le premier, La nuit où les bêtes parlent, et le second, Le Noël de Frère Gauthier. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à midi, bien évidemment dans les cadeaux toujours un peu faciles, mais qui font plaisir. On peut se procurer tous les romans, tous les essais, tous les recueils de nouvelles qui ont été récompensés par de grands et prestigieux prix littéraires, à commencer par le prix Goncourt, qui cette année a récompensé Hervé Le Tellier pour son roman paru chez Gallimard, L'Anomalie, le Médici, le cœur synthétique de Chloé Delhomme. L'Interallié a été décerné cette année à Irène Frein pour Un crime sans importance. Le prix Renaudot revient à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du fils, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Le directeur du Figaro littéraire, Étienne de Montetti, s'est vu récompensé par le grand prix du roman de l'Académie française. Le roman d'Étienne de Montetti a pour titre « La grande épreuve ». Le Fémina a opté pour Serge Joncourt et son roman intitulé « La nature humaine ». On mentionnera aussi que Sandrine Collette a obtenu le prix RTL Lire pour son polar thriller et toujours « Les forêts ». En tout cas, parmi les cadeaux que l'on peut faire, il y a des livres. On peut aussi offrir des revues. Je mentionne le numéro de Pays de Bourgogne, le dernier numéro de Pays de Bourgogne, alors que l'on trouve en Bourgogne dans les librairies, en kiosque et même en librairie. Le dernier numéro de Pays de Bourgogne, qui est un numéro trimestriel, est entièrement consacré à la guerre de 1870. Une guerre oubliée, peut-être. En tout cas, les sujets sont nombreux, puisqu'il est question de Garibaldi à Haute, de la bataille de Nuit Saint-Georges. En tout cas, c'est au pays de Bourgogne. Guerre de 1870, la Bourgogne en première ligne, les batailles de Dijon, Nuit, Autun, Auxerre. On peut offrir le dernier numéro de la revue de poésie Décharge, Décharge numéro 188. Et là aussi, et j'espère qu'on aura l'occasion l'an prochain d'en parler avec son créateur et animateur enthousiaste Jacques Morin, qui a créé cette revue en janvier 1981, les 40 ans de la revue Décharge, une revue de qualité qui a acquis une grande notoriété notoriété sur le plan national. Voilà, des charges. Et puis, en kiosque, ça aussi, ça m'a semblé véritablement passionnant. Outre le fait qu'il y a un article sur, il y a 180 ans, le retour des cendres de Napoléon en France, il y a surtout un gros dossier qui est consacré au roi Arthur, une légende millénaire. Vous savez d'ailleurs qu'au début de l'année 2021, Alexandre Astier va sortir l'adaptation film de la série Kaamelott. Mais enfin, le dossier est consacré à Merlin, la fée Viviane, Arthur, la table ronde, un dossier captivant, c'est dans le dernier numéro d'Historia, disponible en kiosque et maison de la presse. Vous écoutez Radio Né Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi, on marque, si vous le voulez bien, un premier intermède musical.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr.
Alors, comme je l'avais annoncé au début de notre émission, nous sommes en ligne avec André Derieux. Alors, André Derieux, je vais lui demander de se présenter, mais la raison pour laquelle je lui donne la parole, alors on l'avait déjà entendu au mois de septembre, puisque nous l'avions rencontré lors du salon Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot, pour son essai intitulé « 50 jours pour comprendre autrement le vin » aux éditions Ellipse. Et André Derieux a mis à profit le temps où il a été confiné pour sortir le mois dernier, en novembre, un autre essai, toujours chez Ellipse, intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin », sous-titré « 12 mois avec Bacchus ». Bonjour André Derieux.
Bonjour, bonjour Yannick, bonjour à tous. Effectivement, c'est un projet que j'avais depuis quelques temps déjà et qui s'est concrétisé lorsque le temps s'est arrêté au printemps. Bon, le temps s'est à nouveau arrêté en ce moment. Et voilà, ce livre, c'est une réflexion sur le temps qui me permet, parce que je m'intéresse beaucoup au patrimoine vitivinicole, au patrimoine œnoculturel, là, c'est une autre façon, après le premier livre dont vous avez parlé, c'est une autre façon de m'intéresser au patrimoine et à la culture, au culturel de la vigne et du vin.
Alors, je dois rappeler, André Derieux, que vous êtes pionnier de l'œnotourisme. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment à la rencontre des cépages modestes et oubliés. Et vous, André Derieux, ce qui vous intéresse dans votre démarche, c'est de rappeler que finalement, autour du vin, il y a une véritable vie économique, mais il y a aussi une vie culturelle, il y a une histoire, et c'est une plus-value que l'on peut donner au vin et au monde du vin. Et ce dernier ouvrage, le calendrier perpétuel de la vigne et du vin, par exemple, montre que finalement la société française était vraiment marquée par le rythme du vignoble, de la vie végétale du vignoble et de l'activité autour du vignoble.
Exactement, la vigne, c'est un monde fabuleux. Et s'intéresser au vin permet de s'intéresser finalement au calendrier. Je trouve qu'on est un petit peu loin aujourd'hui des calendriers. Alors, on pense d'abord au calendrier naturel qui lui-même repose sur le calendrier, utilisons un grand mot, le calendrier cosmique. Et sur ce calendrier naturel, ben, on repose les calendriers agricoles, les calendriers religieux, les calendriers de fêtes, le calendrier de la célébration des saisons, de la disparition de la lumière, du retour de la lumière, des jeux des planètes. Et finalement, voilà, la vigne et le vin sont des moyens de se ressourcer, de se reconnecter par rapport à ces calendriers qu'on a beaucoup oubliés et qui ont disparu ou qui ont été profondément modifiés. Lorsque le livre est sorti, j'ai voulu qu'il sorte au mois de novembre, comme vous l'avez dit. Effectivement, c'est sorti aux alentours du 11 novembre. Et ce qu'on a un petit peu oublié, parce que maintenant, le 11 novembre, c'est la fête de l'armistice, c'est aussi la semaine du Beaujolais nouveau et des vins nouveaux, on a un peu oublié la Saint-Martin. La Saint-Martin, c'était une très très grande fête agricole, une très grande fête de toute la paysannerie et donc de toute la France. Ça marquait la fin des travaux des champs, ça marquait l'ouverture des vins primeurs. C'était vraiment une énorme période de fête. D'ailleurs, on dit que le maréchal Joffre a fait en sorte, puisque les Allemands avaient demandé l'armistice le 5 novembre, a fait en sorte de repousser la signature de l'armistice le jour de cette grande fête, qui était une grande fête du vin, de la vigne, de l'agriculture et de la France.
Alors là, André Derieux, sous les yeux, j'ai votre livre ouvert au mois de décembre. Alors en décembre, au niveau du cycle de la vigne est en dormance, comme on le
voilà.
Dit.
Voilà, tout à fait. La vigne, elle, est en dormance. Mais c'est une période, la période d'hiver, c'est une période où on guette la lumière. On attend le retour de la lumière. Donc il y a pas mal de petites dates comme ça d'abord, on sait que les jours vont rallonger à partir de décembre. Il y a aussi la petite date de la Sainte-Lucie qui fait l'espérance de la lumière. Il y a le signe de Capricorne qui marque le rebond, lui aussi, vers la lumière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la psychologie, dans une psychologie qu'on peut comprendre, la psychologie collective, eh bien, on est en permanence en train de guetter la lumière ou les raisons du retour du soleil ou les raisons du retour du printemps.
Alors, dimanche dernier, on fêtait Saint-Nicolas, qui est le patron des marchands de vin et des tonneliers. Hein. On sait d'ailleurs la légende au IIIe siècle qu'il a fait sortir vivant d'un tonneau trois enfants qui avaient été tués par un cruel boucher qui les avait mis dans un saloir.
Tout à fait, absolument. Et c'est vrai que ce calendrier permet de raconter tout un tas d'histoires, tout un tas d'anecdotes, et d'aller chercher derrière une certaine vérité qui correspond à ces rythmes solaires, à ces rythmes lunaires. Et on a évidemment des proverbes, on a des anniversaires, on a des fêtes, mais derrière tout ça, au fond de tout ça, on a une profonde psychologie collective qui est celle de notre monde français, mais aussi occidental, puisque je rappelle un certain nombre de fêtes romaines, de fêtes grecques, qui étaient vraiment branchées, comme on pourrait dire, sur les cycles naturels et les cycles cosmiques.
Alors en hiver, André Derieux, il faut se délecter de vin, des vins cuits, en fait, qui est une tradition provençale.
Voilà, effectivement, c'est quelque chose, la vraie définition du vin cuit, je la donne, parce qu'il ne faut pas, la galvauder, mais c'est effectivement une période, comme je le disais, on attend la lumière, et bien on va avoir tendance à consommer des vins chauds, pas seulement les vins chauds qu'on connaît sur les marchés de Noël, mais des vins qui ont des tonalités de lumière, donc comme les vins cuits, ou comme les vins comme le champagne, ou comme les vins de Sauternes, etc., des vins qui permettent d'apporter de la chaleur et qui permettent d'apporter de la lumière. Et c'est vrai que pour chaque mois, je me suis aussi attaché à marquer le rythme des saisons et des mois avec les produits de la terre, avec les mets, avec les accords mets et vins qui correspondent aux différents mois.
Alors c'est intéressant aussi dans la partie, par exemple, viticulture. Là, je suis aux pages consacrées au mois de décembre. Il est question de la bouse de corne, qui est une préparation à pulvériser, qui favorise la croissance des racines. Alors il y a plein, effectivement, d'informations venant, effectivement, du folklore régional. Par exemple, André Derieux, vous rappelez à moi qui suis franc-comtois, Barbizier, la crèche comtoise. Ça m'a fait extrêmement plaisir.
Oui, tout à fait. C'est une crèche qui est intéressante parce que Barbizier est un vigneron.
C'est un vigneron, c'est ça, de Besançon, enfin des environs de Besançon. Enfin, voilà, des quartiers de vignerons de Besançon. Et vous rappelez que le 5 décembre 1933 est abrogée officiellement la prohibition sur l'alcool mise en place aux États-Unis en 1920. C'est vraiment passionnant puisque finalement,
grande
de janvier.
Ça a donné lieu à une grande fête à Bercy. Bercy, vous voyez, se rouvrir un marché. Et ça a été une grande fête à Bercy avec des drapeaux français et américains, avec moult consommation de bouteilles. Ça a été un grand moment. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, alors j'ai fait en sorte que pour chaque mois il y a une page qui s'appelle notes et dates personnelles qui permettent au lecteur de rajouter des éléments d'information qui correspondent à ses connaissances ou à sa région d'origine, et il y a même une page Facebook qui est consacrée à l'ouvrage sur lequel on peut reporter les dates complémentaires, les informations qu'on veut voir rajoutées, pourquoi pas dans une future édition du livre.
12 mois avec Bacchus et 12 mois aussi avec vous, André Derieux, à travers donc ce dernier essai intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin ». C'est aux éditions Ellipse, de même que je rappelle 50 jours pour comprendre autrement le vin. André Derieux, deux ouvrages à mon avis très intéressants, susceptibles de faire plaisir à tout un chacun et à glisser sous le sapin à Noël.
Exactement, vous avez tout à fait raison, et commencer une nouvelle année qui sera, j'espère, bien bien meilleure que celle que nous vivons à l'heure actuelle.
Merci André Derieux de nous avoir consacré un petit peu de temps. Je rappelle donc le calendrier perpétuel de la vigne et du vin sous la plume de André Derieux, c'est aux éditions Ellipse. Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve ensuite pour vous donner d'autres idées, cadeaux de livres que vous pourrez glisser sous le sapin pour les fêtes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
De temps en temps, je vous observe.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr.
Un wagon livre aux couleurs de Noël avec des suggestions de lecture ou des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Moi, mon petit cadeau, ce sera ce court poème de Maurice Carême. Maurice Carême, c'est un nom de poète qui peut, à mon avis, suggérer une grande nostalgie chez nos auditrices et auditeurs, parce que à l'école primaire, pour les gens de ma génération, on apprenait souvent des poésies de Maurice Carême, qui d'ailleurs est un instituteur belge, hein, né en 1899, il est mort en 1978. Et je voudrais vous lire ce court poème de Maurice Carême, intitulé « Décembre ». Décembre, avec vos trois rois mages, votre crèche en papier doré et vos sapins émerveillés, dites, seriez-vous cette étoile si perdue qu'on a peine à croire que c'est du plus obscur de l'ombre que Jésus, tout nu, bleu de froid, s'est un jour levé sur le monde avec le soleil dans les bras. » Petit poème de Maurice Carême. Avant de vous donner quelques pistes de lecture ou d'idées cadeaux, je commence par un essai. Un essai sous la plume de François Dubé et de Marie Durubella, intitulé « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» C'est une réflexion, en fait, sur le bilan des politiques d'éducation conduites depuis 1945. Les réformes qui se sont succédées après 1945 ont débouché sur la mise en place du collège unique, l'attribution du baccalauréat à près de 80% d'une classe d'âge et l'explosion du nombre d'étudiants. Et effectivement, cette massification de l'enseignement a fait bien évidemment évoluer le nombre de diplômés, plus en quantité que qualitativement parlant. En tout cas, aujourd'hui, et les auteurs le montrent, la jeunesse actuelle est de plus en plus convaincue que la scolarité n'est plus un vecteur de promotion sociale. Et effectivement, les auteurs François Dubé et Marie Durubella pensent qu'il faut redonner un petit peu de puissance et de contenu à l'éducation, et notamment faire preuve d'une plus grande exigence vis-à-vis des élèves. L'école peut-elle sauver la démocratie ? Un essai paru au Seuil sous la plume de François Dubet et de Marie Duru-Bella. Si vous voulez offrir un bon polar ou un bon thriller, vous pouvez glisser sous le sapin le roman, le dernier roman, le sixième roman d'Olivier Norek, intitulé Impact. C'est aux éditions Michel Lafon. Alors Olivier Norek s'est lancé un nouveau défi, c'est dénoncer la destruction de la planète par des puissances financières d'un cynisme sans nom. Et effectivement, c'est l'histoire d'un mouvement éco-terroriste, Green War, qui prend en otage notamment le PDG de Total ou la directrice de la Société Générale et qui exige une rançon énorme, des milliards d'euros, afin de réparer les dégâts écologique. C'est au cœur donc de ce roman d'Olivier Norek qui s'est beaucoup documenté et qui effectivement connaît un vrai succès en librairie. C'est aux éditions Michel Lafon, c'est Impact de Olivier Norek. Alors cette fois-ci, un essai paru chez Flammarion sous la plume de la philosophe Elisabeth Badinter qui signe un texte intitulé « Les conflits d'une mère ». Il s'agit de revenir en fait sur la relation de Marie-Thérèse d'Autriche et de ses enfants. Marie-Thérèse d'Autriche a régné pendant près de 40 ans sur un immense empire. Elle est née en 1717. Je rappelle d'ailleurs juste au passage pour situer, hein, Louis XIV, lui, meurt en 1715. Elle naît donc en 1717 et elle est morte en 1780. Et elle a eu 16 enfants, dont 13 ont survécu aux premières années. Alors on peut se demander comment cette femme qui travaillait 15 heures par jour, qui était la plus puissante d'Europe, qui a fait 2 guerres de 7 ans, comment elle a pu élever convenablement autant d'enfants. Eh bien, c'est ce qu'explique Elisabeth Badinter dans cet essai. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que Marie-Thérèse d'Autriche est la mère de notre reine Marie-Antoinette qui est née en 1755. Marie-Antoinette qui fut le 15e enfant de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc Les conflits d'une mère par Elisabeth Badinter, c'est aux éditions Flammarion. En cette année 2020, il n'est pas superflu de se réintéresser à un pays en grande partie francophone. Je veux parler du Liban. Je voudrais mettre en avant un essai paru chez Actes Sud intitulé « Beyrouth 2020, journal d'un effondrement » par Sharif Majdalani. Sharif Majdalani écrit sur... c'est un universitaire, hein, c'est l'auteur quand même d'une dizaine de romans aux éditions du Seuil et qui a entamé en fait un journal dans lequel il partage son désarroi et témoigne aussi de la vie quotidienne à Beyrouth au moment de la banqueroute étatique. Alors on sait qu'il y avait eu un grand espoir dans ce pays né du mouvement du 17 octobre 2019, avec 1 million de Libanais dans les rues qui réclamaient une nouvelle ère politique, la fin de la corruption, la fin des emplois fictifs, le clientélisme. Et puis il y a eu cet été, le 4 août, à 18h07, vous vous en souvenez sans doute, ces deux immenses explosions dans le port de Beyrouth qui ont tétanisé la capitale. Et justement, l'écrivain pose la plume, il court au secours de ses amis endeuillés et il reprend aussi dans son essai ses réflexions sur l'avenir du Liban. Voilà. Donc je rappelle le titre de ce journal d'un effondrement, Beyrouth 2020, c'est aux éditions Actes Sud, sous la plume de Sharif Majdalani. Rappelons aussi que les écrivains français s'étaient mobilisés chez Fayard par un recueil de textes, des lettres d'amour à l'attention des Libanais et surtout de Beyrouth. Ça s'intitulait d'ailleurs « Pour l'amour de Beyrouth ». Et il y avait des artistes qui avaient pris la plume, hein, Adjani, Capuçon, Chédid, Weber, Michalik, ou alors aussi des écrivains, hein, Guittard, Ben Jelloun, Boris Cyrulnik, La Ferrière, Lambron, Amin Maalouf, Daniel Rondeau, etc. etc. Et d'ailleurs, ce livre, Pour l'amour de Beyrouth, chaque numéro acheté, eh bien, 2 euros étaient reversés à l'association Offrejoie qui travaille à la reconstruction de la ville. Je voudrais aussi vous recommander, alors là, c'est un très beau livre, c'est une biographie illustrée de Albert Londres. Alors c'est un gros travail mené par un journaliste qui s'appelle Benoît Emmerman, c'est aux éditions Paulsen. C'est un gros livre illustré qui revient sur la carrière d'une grande et haute figure du journalisme français, Albert Londres, né en 1884, mort en 1932 au large du Yémen. Albert Londres qui a été correspondant de guerre pendant la Première Guerre mondiale, qui, vous le savez, avait une définition désormais bien connue du journalisme, je la rappelle d'ailleurs, notre métier n'est pas de faire plaisir, il est de porter la plume dans la plaie. En tout cas, il avait réussi à pénétrer en Russie soviétique dès 1920, adresser les portraits de Lénine et Trotsky, et il a en tout cas fait des enquêtes sur le sort, en 1929 notamment, sur le sort des Juifs dans les ghettos d'Europe de l'Est, en Palestine ou à Londres. En tout cas, Albert Londres était un véritable raconteur d'histoire et il a mené des combats contre la traite des Noirs, il a parlé de la traite des Blanches, il a aussi raconté les terribles conditions de vie des bagnards. En tout cas, on retrouve tout le parcours exceptionnel d'un homme qui fut d'ailleurs peut-être un agent secret au service de la France. C'est ce que soulignait Pierre Assouline en son temps dans la biographie qu'il avait consacrée à Albert Londres. En tout cas, celui qui voulait porter la plume dans la plaie, donc Albert Londres, par Benoît Emmerman, c'est aux éditions Paulsen. Wagon Livre sur Radio Nous Sommes Ensemble jusqu'à midi. On marque, si vous le voulez bien, une nouvelle petite virgule musicale et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Thank you. ces mots si beaux, elle voudrait tout changer.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr.
Avant de vous donner à entendre le conte de Noël qui sera lu dans quelques minutes par Pauline Barroyer, deux références de livres historiques. Le premier sorti le mois dernier aux éditions Perrin. C'est un essai des couples tragiques de l'histoire sous la plume de Jean Descartes. Jean Descartes, vous le connaissez, c'est l'historien des grandes dynasties européennes et de leurs plus illustres représentants. C'est un livre qui revient sur des couples fameux de l'histoire, des couples tragiques. Alors bien sûr, on va retrouver Louis XVI et Marie-Antoinette. Plus récemment, c'est le Shah d'Iran et Faradiba. Ça, c'est absolument passionnant. Mais au Portugal aussi, et le livre commence et s'ouvre d'ailleurs ainsi, au Portugal avec Inès de Castro. Là, on est au XIVe siècle. Donc, on retrouve effectivement Marie Valeska, hein, l'amour sacrifié de Napoléon, le duc et la duchesse de Berry, Maximilien et Charlotte du Mexique, François Ferdinand et Sophie de Habsbourg, vous savez, celui qui sera assassiné à Sarajevo juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Des couple tragique de l'histoire sous la plume de Jean Descartes, c'est aux éditions Perrin. Et toujours chez Perrin également, je mentionnerai l'essai. Alors il est sorti il y a quelques mois déjà, sous la plume de notre ami Bernard Lecomte. Bernard Lecomte, ancien grand reporter, spécialiste des pays de l'Est et qui habite dans Lyon, et nous le saluons d'ailleurs. Bernard Lecomte qui a fait paraître KGB, la véritable histoire des services secrets soviétique. Et on peut dire que d'une plume enlevée et nourrie aux meilleures sources, Bernard Lecomte nous révèle la véritable histoire des services secrets soviétiques. C'est aux éditions Perrin. Sans tarder, je vous propose d'entendre un conte de Noël lu par Pauline Barroyer. C'est une archive puisque Pauline Barroyer avait lu ce conte à notre micro il y a 2 ans maintenant. Tout de suite, la nuit où les bêtes parlent.
Du pont Ribon jusqu'à Montaut, il n'y a pas une lieue. On passe par Jonchère, puis on côtoie le Bas-Person et on arrive chez François, au bord du chemin qui va à Villers. Cette année-là, le sorcier avait quitté sa cabane juste derrière le vieux pont et avec son gros sac sur l'épaule, il était parti pour Montaut, empruntant ses raccourcis familiers, sans craindre de mauvaises rencontres puisque c'était lui que les gens craignaient, lui dont on ne parlait qu'à demi-mot, car on avait peur des catastrophes qu'il se vantait d'être à même de provoquer. Le puits qui tarit, la vache qui dépérit, le feu de cheminée qui enflamme le toit de chaume. On avait beau implorer la bonne dame de grâce à la chapelle de Bar, il semblait que son pouvoir maléfique était tout puissant et on ne savait lui résister. On avait surtout une grande frayeur de le voir arriver dans le village avec une meute de loups. Le bruit courait qu'il était meneux de loups en hiver. S'il paraissait dans la cour, dans cette terrible compagnie, il fallait lui fournir aussitôt toute la soupe de la marmite, sans se plaindre, heureux qu'il reparte aussitôt. On n'en avait aucune certitude, mais il fallait être prudent. Lorsqu'il frappa à la porte de François, les lanternes étaient déjà sur le seuil, car on se préparait à descendre à la messe de minuit, que le chapelain dirait dans la chapelle de Montau. La nuit était tombée depuis longtemps, mais la lune éclairait de haut les congères étincelantes qui bordaient le chemin. Le vieux sorcier se dressait dans sa grande cape noire devant le houx aux troncs entrelacés, et il demanda le gîte pour la nuit. Et il prétendit être allé chanter aux vigiles de Noël à Blano. Il était trop las pour assister à la messe de minuit. Que François lui ouvre donc la grange pour qu'il y dorme en paix. Pendant que Louise encapuchonnait ses petits-enfants, François fit tomber du fenil une fourchée de foin pour le confort de l'intrus, et il lui recommanda de prier pour le repos de ses défunts parents pendant la nuit sainte. Il rejoignit alors les siens, dont les silhouettes sombres se détachaient déjà sur la lumière du feu de cheminée. Et ils s'en furent, tapant régulièrement les sabots contre les pierres de la route pour se débarrasser des pâtons qui s'accumulaient sous leurs semelles de bois. En passant près des maisons, ils étaient rejoints par les autres, Jeanne, André, Marie et Pierre et Gabriel. Et la petite troupe avait fort grossi lorsqu'on entra enfin, après avoir heurté les sabots au seuil de la chapelle. Lucie, la plus proche voisine, avait aidé le marguillier à allumer tous les cierges, et les paroissiens clignaient des yeux devant une si belle illumination, eux dont les maisons étaient si sombres. « Laissons-les, ces bergers et bouviers qui chantent de leur belle voix sonore, Adeste Fideles. Laissons-les croire en un peu de bonheur le temps de leur messe. » Dans l'écurie de François, contiguë à la grange, le sorcier du pont Ribon entendait ruminer un bœuf, et comme il avait froid, il décida de s'y installer. François avait justement préparé une bonne litière de paille pour son âne et son bœuf. Le sorcier s'installa tout bonnement entre les deux animaux et eut aussitôt la sensation d'une bonne tiédeur. Il s'assoupissait déjà lorsque la cloche aigrelette de la chapelle sonna le début de la messe de minuit. À ce moment, l'âne se mit à parler à son compagnon. « Enfin un peu de temps pour parler. Depuis un an que nous attendons la minuit de Noël. Qu'as-tu à me raconter ?»«
Bah rien, tu le sais bien. Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler pour le meunier de la Gravotière. Tu en connais des clients. Tu en as entendu des histoires. Cherche-moi une dans ta mémoire. »
Je suis sûr que je t'ai déjà dit 100 fois l'histoire du four des fées, mais avec ta grosse tête toujours penchée vers la terre sous le joug, tu ne retiens rien. Ben, je recommence donc. Tu sais qu'entre la Gravotière et Chape, s'élèvent au fond des bois d'énormes pierres. Il y a le fauteuil du diable, le four des fées et le rocher de la Dame Blanche. Les petits bergers qui allument du feu pour se réchauffer dans la cavité des fées sont loin de se douter que la nuit du 1er janvier, entre les 12 coups qui sonnent au clocher de Sanceray, le fauteuil du diable pivote et laisse apparaître des richesses fabuleuses, des pièces d'or et des pierreries.
Ben, si tu le sais, d'autres le savent. Alors pourquoi nul ne s'en est encore emparé, puisque les hommes ont toujours faute de telles richesses?
Ah, c'est que le diable y a mis des conditions effrayantes. Il ne livre son or que si on lui livre une bonne âme en échange, et encore faut-il se munir d'une sorte de talisman pour que l'or acquis ne porte malheur. Il s'agit d'un petit galet blanc qu'on peut trouver dans la cascade de la Gravotière. Il suffit de le placer au pied de la pierre du diable quand elle pivote. Et pousser au bon moment l'autre pour qu'il y reste enfermé. Le sorcier n'avait garde de dormir. Il savait désormais ce qu'il ferait dans la nuit de Saint-Sylvestre. Et quand François vint à l'écurie, le matin de Noël, il était déjà sur le chemin des bouleaux, en route vers la Gravetière. Ah, c'est là qu'il rencontra le brave Barthélemy de Baroyer. Le pauvre homme portait sur son dos un sac de seigle au moulin. Il se plaignait que la récolte ne ferait pas la soudure. Il se tenait courbé, tant du poids de son sac que de ses soucis. Ah, le sorcier vit là une chance inespérée, c'était son homme. Il lui promit la fin de ses malheurs s'il pouvait seulement se trouver devant la chaise du diable la nuit du 1er janvier. Barthélemy s'y engagea ferme. La perspective de quelques pièces d'or le faisait déjà chanter Deo Gracias. Aussi, dès le lendemain, il courut revoir le site. Le fauteuil du diable était désert, le four des fées noirci par les feux d'automne. Seule la pierre de la Dame Blanche lui parut belle, car un rayon furtif l'éclairait. Ah, oh, la Dame Blanche! Mais c'est Notre-Dame, pardi, pensait-il. Il sortit alors son beau couteau d'acier et grava une croix sur le devant de la pierre, sous le rayon du soleil. Et il y revint chaque jour en remerciant la bonne Vierge. Vint le moment fatidique. Les deux hommes étaient bien avant minuit debout devant ces grandes pierres, des origines du monde. Le vent soufflait avec violence, en faisant vibrer les troncs d'arbres comme des tuyaux d'orgue. La neige ne tombait plus, et le gel en faisait briller les cristaux. Mais on ne se souciait pas du froid. On attendait que sonne la cloche. Soudain, en même temps que l'air se mit à vibrer de la puissante musique du clocher, un grincement effrayant déchira l'atmosphère et soudain, une lumière parut, mince d'abord, puis éblouissante derrière le rocher. Brutal, le sorcier se précipita, intimant l'ordre à Barthélemy d'attendre son tour. Quand le gros sac fut plein, 10 coups avaient déjà sonné. Le brave Barthélemy entra et prit quelques pièces dans sa poche et une pierre bleue qui étincelait. Or, le sorcier avait retiré son galet blanc et commençait à fuir. Le dossier du fauteuil allait se rabattre quand la lune se mit à nimber la pierre de la Dame Blanche en même temps que s'arrêtait le mouvement grinçant. Barthélemy sortit, sa main serrant sa poche. Le fauteuil reprit sa place. Et soudain, un hurlement se fit entendre, tandis que le sorcier courait au ruisseau jeter son gros sac qui brûlait. L'or n'était plus que des charbons ardents. Le lendemain, Barthélemy s'en fut porter sa pierre bleue à la statue de Notre-Dame dans l'église de Sancerre. Une pièce fut offerte au meunier pour la restauration des ogets de sa grosse roue et le reste permis de remplir le grenier de bon grain.
La nuit où les bêtes parlent, un conte lu et de Pauline Baroyer à l'instant dans Wagon Livre sur Radion. Un autre conte, toujours lu par Pauline Baroyer, dont elle est l'auteur, Le Noël de Frère Gautier.
On parlait volontiers, tant à Chevannes qu'à Montaut, de ce moine cordelier qui s'était construit un abri rudimentaire dans le voisinage de la chapelle Sainte-Marguerite et semblait vouloir y vivre en ermite. C'était le frère Gautier, en effet, qui avait choisi de rester à l'ombre de cette chapelle et il lui semblait que sa nouvelle existence se calquait sur celle de Saint-François d'Assise. La saison était belle et chaque nouvelle journée le comblait de joie car il la recevait comme un présent de Dieu. Il y menait une vie de solitaire éperdu de bonheur, à laisser s'élever ses prières dans la compagnie des oiseaux. Mieux, ses chants semblaient en harmonie avec ceux de la grive musicienne et du loriot. Jamais on n'avait été plus proche de l'esprit de frère François. Aussi bien vite, le panier de vivres que lui portait le jardinier des religieuses de Chevannes lui sembla fort peu correspondre avec l'existence qu'il avait choisie. Il y renonça. Il chercha alors sa nourriture dans la nature que le bon Dieu a si largement dotée. La vie quotidienne avait son charme. Il se plaisait à cueillir des simples pour en faire des bouquets qu'il pendait au-dessus de sa couche. Et son logis en était agréablement parfumé. Il savait même confectionner des galettes en broyant les grains des épis glanés dans les champs. Oh, mais les laboureurs du hameau les auraient qualifiés de pain de disette. Il cuisait aussi des brouets de noix, mangeait des asperges sauvages, des champignons selon l'époque. Et il buvait l'eau de la source de la chapelle. La mère supérieure du couvent de Chevannes avait respecté sa volonté. Toutefois, voyant la saison s'avancer, elle avait prié le jardinier de se rendre à l'ermitage pour mettre en garde le frère Gautier contre les rigueurs de l'hiver du Morvan. Mais devant son entêtement, elle avait finalement convaincu un charbonnier du voisinage de renforcer les murs et le toit de l'ermitage avant que la saison des pluies d'automne ne le rende trop inhospitalier. L'hiver du pays de Saint-François ne saurait se comparer à celui de Paris et encore moins à celui du Morvan. À brebis tondues, Dieu mesure le vent, dit le proverbe. En effet, l'arrière-saison fut délicieuse. Les feuilles sont restées longtemps vertes, tardant à se rouiller. Il ne tomba que des pluies fines qui firent pousser les ceps à foison. Une chevrette, harcelée par des chiens de chasse, était arrivée tout courant jusqu'à l'ermitage et frère Gautier lui avait ouvert sa porte. Avec cette compagnie et les aménagements apportés à son gîte, malgré qu'il en eût, la vie était fort agréable. La chèvre broutait les feuilles de roncier alentour et son nouveau maître avait tout loisir de lui récolter des herbes sèches pour l'hiver. À la Saint-Nicolas, le mauvais temps semblait encore se faire attendre. C'est à la Sainte-Luce que tout changea. Les grands vents d'hiver se mirent à souffler furieusement. Tout autour de la chapelle, de grosses branches s'étaient abattues dans la tourmente. Frère Gautier en avait profité pour faire une réserve de bois. Mais ces bûches humides brûlaient difficilement, donnant plus de fumée que de chaleur. Puis un froid cuisant s'était installé après d'abondantes chutes de neige. La nature restait silencieuse, comme ensevelie. Ah, bientôt, des hurlements se firent entendre au loin, tandis que la lune faisait étinceler les cristaux de neige accrochés aux branches noires des chênes. La faim ramenait les loups près des habitations. Le gibier s'étant raréfié. Les plus hardis rôdaient alentour des hameaux, mais les paysans faisaient bonne garde et tenaient leurs animaux soigneusement enfermés dans les étables et les bergeries. Or, ce soir-là, frère Gautier ne le passerait pas comme à l'ordinaire. C'était la veille de Noël. Il avait jeté sur son foyer la grosse bûche, choisie depuis longtemps pour cette veillée sainte. Il l'avait dès l'été mise à part et couverte de genêts et de fougères sèches. Il psalmodiait des prières en regardant le beau feu qui éclairait son humble logis, puis avait pris son rebec, un peu délaissé depuis l'arrivée de la chevrette. Toute la douceur du monde s'était réfugiée dans ce pauvre logis en cette fin d'après-midi sombre. Une mélodie pleine de grâce emplissait l'espace et l'on eût dit que le petit animal en goûtait le charme. Frère Gautier s'imaginait en compagnie des bergers de ces pays lointains qui, en des temps tout aussi lointains, somnolaient autour d'un feu rougeoyant quand les anges les avaient appelés pour être les premiers témoins de la crèche. Soudain, la chèvre s'est dressée et, en hâte, s'est réfugiée près de l'ermite, comme affolée. Frère Gauthier n'eut pas même le temps de lui caresser la tête pour la calmer que, déjà, un piétinement inquiétant était perceptible autour de l'ermitage. Le souffle qui passait sous la porte disjointe ne laissait plus de doute à frère Gauthier. Un loup était là et déjà ses hurlements appelaient le reste de la meute. Il avait flairé la présence de la petite chèvre et ses coups de tête menaçaient la porte. Il avait dû se dresser de toute sa hauteur contre la paroi car on entendait ses pattes en griffer le bois. Elle ne résisterait pas longtemps à de si violents assauts. L'ermite, aperçu par la lucarne qui avait été ménagée pour donner un peu de jour, la tête énorme d'un vieux loup. Maintenant la meute s'approchait, on en percevait la galopade. La prière de l'ermite semblait bien impuissante. La porte allait céder. Frère Gauthier se souvint qu'il fallait prendre un tison pour effrayer les bêtes, mais la grosse souche flambait seule dans son âtre. Soudain, alors que l'assaut semblait au point de vaincre la résistance de la porte, le vent se leva, apportant le son de la cloche de l'église de Chevannes qui appelait les fidèles à la prière avant la messe de minuit. Subitement, comme si les loups avaient été vaincus par une force surnaturelle, le silence se fit. Et par la lucarne, le frère Cordelier vit s'enfuir la meute à la suite du vieux loup et disparaître dans la nuit. Alors, l'ermite prit son bâton et, suivi de sa chèvre, marcha longtemps dans la neige gelée jusqu'à l'église du couvent de Chevannes. C'est alors qu'au 12e coup de minuit, les paroissiens, debout dans la nef, s'écartèrent, surpris, pour laisser passer un homme en robe de bure, suivi d'une chèvre qui s'agenouilla devant la crèche, tandis que le prêtre entonnait « Adeste fideles ».
Le Noël de frère Gauthier, lu par Pauline Barroyer, c'est une archive wagon-livre de 2018. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous retrouvez cette émission dans son intégralité sur le site d'archives de wagon-livre, www.yannickpetit.fr, ainsi que toutes les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et bien sûr à toutes et à tous un très joyeux Noël convivial, gourmand et heureux. Rendez-vous samedi prochain. Merci encore de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir.